L'âge bête.
Bienvenue dans l'âge bête sur RCN, il est 14h, cette émission est enregistrée depuis les locaux directement de RCN. Bonjour tout le monde.
Salut.
Alors, pour commencer, on aura Lucie qui nous parlera de trois expressions.
Effectivement, comme d'habitude.
Ça va être super intéressant. Ensuite, on aura Tess. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui?
Je vais vous parler du bal des folles.
C'est parfait. Et pour... Ensuite, on aura Antonin, pardon, avec ton quiz, comme d'habitude.
C'est ça.
Et pour finir, on aura Margot, tu vas nous parler de cuisine.
Oui, je vais un peu copier Antonin, on va faire un quiz sur la cuisine.
C'est parfait, restez avec nous, nous sommes ensemble jusqu'à 14h30.
RCN, l'âge bête.
Donc Lucie, comme d'habitude, tu vas nous parler de trois expressions françaises aujourd'hui, nous t'écoutons.
Effectivement. Donc pour commencer, est-ce que vous connaissez l'expression « appeler un chat »
Oui.
Ah, pas du tout.
Si. Et du coup, vous savez ce que ça veut dire un peu ou pas du tout?
Bah, c'est quand tu fais quelque chose qui représente.
Qui te représente, tu crois?
Ouais, qui te représente.
Non, pas vraiment. Donc en fait, elle trouve ses origines dans la Grèce antique. Elle est attribuée à Platon dans son livre Le Banquet. Il utilise cette expression qui est un peu modifiée. Et c'est-à-dire appeler un chat et un cheval, ou... donc il ajoute un cheval.
Okay. On l'a raccourci en fait.
Voilà, c'est... de nos jours on raccourcit tout.
C'est vrai.
Et il le dit cela pour montrer l'importance de nommer les choses par leur vrai nom et de ne pas faire de détour. Donc cette expression, elle signifie qu'il faut parler franchement sans détour, sauf dans certaines situations où c'est un peu compliqué. Elle est donc utilisée pour encourager à la transparence et à la clarté quand on parle de quelque chose. Voilà. Pour
ok, éviter de donc mentir. Aller à l'essentiel en gros.
Voilà. Ouais. Donc ensuite, est-ce que vous savez quand date l'expression chercher une aiguille dans une botte de foin?
Je pense que c'est super ancien.
C'est super ancien.
Genre le Moyen-Âge?
Oui, tout à fait.
Ouais. Ah, je sais pas, le foin, okay, ça voilà. M'a inspiré le Moyen-Âge.
Tout à fait, elle date du Moyen-Âge. Et c'est les agriculteurs qui l'utilisaient. En fait, ils utilisaient des très grandes bottes de foin, encore plus grandes que celles aujourd'hui, alors que c'est déjà très grand.
C'est déjà grand.
Donc ils stockaient leur récolte dedans. Et si, par malheur, il perdait un petit objet comme une aiguille, pour la retrouver, c'était l'enfer. C'était quasiment impossible, en fait, même. Et ils ont pris l'aiguille, qui est un objet minuscule. Je ne sais pas pourquoi, mais...
Voilà, peut-être. Il n'y a pas toujours d'explication très précise, de toute façon, dans les expressions, surtout voilà. Quand elles datent...
De si longtemps.
De si longtemps.
Cette expression, donc, elle signifie... qu'une recherche est difficile, voire impossible. Et aujourd'hui, cette expression, elle est utilisée dans n'importe quel contexte, pas forcément une recherche. Tant que la situation est compliquée et que les chances de réussite sont ou semblent impossibles, on peut l'utiliser.
C'est vrai qu'on l'utilise un peu plus que appeler un chat.
Oui.
Elle est un peu plus courante.
Oui. Elle date d'un peu moins longtemps quand même.
C'est pour ça, je pense.
Pour terminer, clin d'œil à Antonin qui m'a demandé de faire cette expression.
Oui.
Donc, est-ce que vous savez d'où vient l'expression « démarrer sur les chapeaux de roue »
Oui,
Je la connais, mais je ne sais pas trop d'où elle vient. Ça vient,
Réagir rapidement, je crois.
Ouais, pas tout à fait, du coup. Donc, tout d'abord, elle date du 19e siècle, donc on fait un bond dans le temps.
Ouais.
Et plus précisément, des années 1920, au commencement de l'histoire de l'automobile. Donc pour comprendre l'origine de cette expression, il faut se plonger dans le secteur de l'automobile. Elle signifie aller si vite que la voiture, en fait, elle s'inclinerait sur le côté, un peu comme dans les films d'action, quand ils prennent des virages serrés, etc.
Oh, ouais, je vois. J'ai l'image.
Donc les chapeaux de roue, ça représente les enjoliveurs de la voiture. Est-ce que vous savez ce que c'est un enjoliveur?
C'est dans la roue.
Oui, c'est,
oui, le truc argenté dans la roue.
C'est le truc en métal, tout à fait. Donc, les voitures, en fait, elles se coucheraient dessus. Pas vraiment couchées, hein, mais c'est une image, on va dire.
Okay.
Lorsqu'un conducteur prenait un virage trop rapidement et trop serré, en fait.
Ah, en mode, okay.
Donc, la voiture, elle s'incline.
Comme en moto, genre, tu t'inclines.
Voilà.
Oui, voilà.
Ok.
Mais avec une voiture.
Avec une voiture, du coup.
C'est un peu plus...
compliqué.
Bah, comme dans les films, au final.
Donc, maintenant, cette expression, elle s'applique à tout véhicule qui démarre très rapidement. Et donc, on l'utilise beaucoup dans les courses. Les commentateurs, ils vont dire la course, par exemple, la course commence sur les chapeaux de roue ou ce concurrent commence sur les chapeaux de roue.
Mais ça veut dire que
la course commence très vite ou que le conducteur va très vite dès le début. Voilà.
Okay.
Et bah, merci. Merci Lucie, c'était super intéressant. On va maintenant écouter Tess qui va nous parler des balles des folles.
Oui, en effet. Donc déjà, c'est pas vraiment une affaire criminelle comme d'habitude.
Ok.
Mais là, bah, déjà, avant de vous parler du bal des folles, je vais d'abord faire un petit bond dans le passé. Donc je vais vous raconter déjà l'histoire de l'hôpital de la Salpêtrière. Pardon. Donc c'était le premier et le plus grand des établissements de l'hôpital général de Paris. C'était destiné à la base au renfermement des mendiants. En 1684, du coup, on ajoute à cet établissement une prison destinée à 300 femmes condamnées pour débauche et prostitution publique.
Ok, comme ça, on crée une prison.
Ouais, comme ça.
Ok.
Et voilà, donc ce lieu, il est fait donc pour loger des femmes. Donc ça fait de la Salpêtrière un lieu de concentration et de répression.
Ah, super.
Donc, jusque vers le 18e siècle, la Salpêtrière n'avait aucune fonction médicale. Voilà. Et le 3 et 4 septembre 1792, l'établissement est le théâtre de scènes sanglantes. Donc, plusieurs centaines d'hommes armés pénètrent dans l'hospice, libèrent 186 femmes, mais en viol et massacrent une trentaine, souvent des prostituées.
C'est pas très joyeux.
Ils veulent les sauver, triste, mais pas trop
ouais,
non plus. Quoi.
Voilà. Donc, au 18e et au 19e siècle, le lieu, il a vraiment une réputation hyper effrayante.
Okay.
Et ensuite, l'établissement, il devient du coup une sorte d'hôpital psychiatrique où du coup, on prive, violente, abuse des patientes donc prétendument hystériques, donc en réalité épileptiques, atteintes d'autres troubles ou simplement juste fragiles. La plupart du temps, elles sont confiées aux neurologues par leur famille, donc elles subissent des traitements expérimentaux proches de la torture. Donc il y a des douches froides, des séances d'hypnose, de l'isolement forcé, des coups d'électricité,
enfin pauvres.
Plein d'autres choses.
Voilà. Pour le droit de rêve, quoi.
Mmh. Ouais, c'est pas
un laboratoire, en fait.
Bah, quasiment.
Mmh. Ah, et du coup, on savait pas trop, à l'époque, comment soigner ces femmes. On pensait que l'hystérie, c'était lié à leur sexe, donc au fait que c'était des femmes.
Super.
Ouais. Mais ensuite, du coup, il y a le docteur Charcot qui arrive à la Salpêtrière. Et du coup, là, les persécutions, elles diminuent. Donc, on va le décrire comme un homme autoritaire, mais qui a permis quand même de ramener un peu de lumière et de propreté à l'intérieur de l'hôpital. Et il apporte des conditions de soins un peu plus décentes, parce qu'avant, il n'y avait même pas vraiment une idée de soigner, c'était vraiment juste de la torture, quoi.
Ok.
Et du coup, le professeur Charcot, lui, il a l'initiative de ce qu'on appelle le bal des folles. Donc, ces patientes, elles pouvaient sortir de l'isolement forcé, donc le temps d'un bal. Donc, c'est dans Paris au 19e siècle, donc la ville lumière, les gens, ils aiment danser, boire, etc.
C'est sympa, il leur donne un peu de liberté.
Ouais, ça, ouais, c'est cool.
Ça.
Oui.
Ok.
Enfin... voilà.
Un minimum.
Pas trop.
On verra la suite, je pense.
Voilà. Donc, il y a des centaines de balles dans tout Paris. C'est vraiment la distraction majeure. Il y a toutes les classes sociales qui y participent en fonction des différents balles. Mmh. Voilà. Et du coup, le bal des folles, il se situe près de Mardi Gras, donc au moment de la mi-carême. Genre, c'est de là que ça vient.
Ah oui.
Ok.
Voilà, et du coup, on va mêler que la haute société, les hystériques, comme on les appelle, et les gardiennes. Les gardiennes, c'est y en a une par femme. Et du coup, c'est donc à la base, elles sont là pour les aider s'il y a un problème, etc. Mais c'est surtout pour les empêcher de partir.
C'est pour les surveiller.
Oui. Voilà. Et du coup, les femmes, les femmes internées, elles sont déguisées et maquillées pour l'occasion. Donc elles chantent, elles dansent et elles jouent de la musique pour distraire la foule des invités. C'est plus pour ça que pour te faire de vraies rencontres, quoi. C'est vraiment pour les distraire. Donc, c'est pas vraiment, du coup, une soirée de fête ni d'échange. On y recense quand même beaucoup d'agressions sexuelles.
Ah oui, et, en fait, ça change pas vraiment de voilà. Là où elles étaient.
Voilà. Et après, sinon, il y a aussi d'autres femmes qui espèrent, du coup, faire une rencontre qui pourrait les sortir de cet endroit, quoi. Mais, enfin, ça arrive très, très peu.
Elles avaient quoi comme moyen de sortir, du coup, de l'endroit ?
Bah, à la limite, faire une rencontre, tu sais, avec quelqu'un de la haute bourgeoisie
et lui, la prendre sous son aile. Payé pour qu'elle sorte.
Ouais. Ouais.
Ok. Ouais, il n'y avait que ça comme moyen.
Voilà. Et du coup, bah, c'est à peu près tout. Mais aussi, du coup, il existait à la même époque, du même médecin, le bal des enfants épileptiques, mais c'est pas encore la même chose. C'est moins
triste,
ouais,
peut-être.
Oui.
Parce que là, le sujet, ouais, t'as un peu refroidi l'ambiance. C'est vrai que c'est assez délicat, ce sujet. Mais merci, Tess. On aura appris plein de choses. Restez avec nous. On écoute Zat Sotrou de Gracie Adams. I could go and read your mind. Think about your dumb face all the time. Living in your glass house, I'm outside. Looking in a big blue eyes. Did it just to hurt me, make me cry. Smiling through it all, yeah, that's my life. You're in. Should go and war. Vous êtes dans L'âge bête sur RCN. On va maintenant écouter le quiz de culture générale de Antonin.
Voilà. Bon, la dernière fois, j'ai eu assez de plaintes, encore une fois. Hein. Je suis la victime.
Comme toutes les semaines, j'ai l'impression.
C'est vous qui voulez du facile ? Des questions faciles ?
C'est pas tellement facile, mais pas tellement compliqué.
Parce que les autres, ils veulent que ce soit à la hauteur de la dernière fois. Je pense pas que ça va être aussi compliqué. Bon. On repart sur du vrai ou faux. Est-ce que l'ADN de banane et celui des humains sont à 50% identiques ?
Oui, c'est vrai. Je crois que c'est vrai, ouais.
Je crois que c'est même plus.
Oui.
Je crois que je l'avais vu circuler l'info. Soit c'était faux, soit c'était vrai.
Je sais pas, moi je l'ai vu en PSVT, donc...
Ah bah alors là c'est sûr.
Moi je crois que c'est Margot qui me l'a dit, donc...
Alors la réponse est un peu ambiguë, on va dire. Parce que c'est vrai, mais en même temps c'est faux.
On n'est pas des bananes.
C'est parce qu'en fait, l'ADN, c'est plus compliqué que ça et qu'en fait, c'est un peu une simplification excessive. C'est pas aussi simple que ça. Ça fait référence à la similarité des gènes de base nécessaires au fonctionnement biologique, mais l'ADN est plus complexe que ça. Donc c'est vrai, mais c'est exagéré.
Ok, bon, on saura, merci.
Mais oui, ça, c'est quand même assez connu, non ?
Oui, c'est assez connu. Ça a circulé à un moment.
Ok, partons sur des questions à choix multiples, avec des propositions.
Parti. On t'écoute.
C'est mieux. Quelle est la première ville à avoir été colonisée par les Européens ? Pour l'instant, je ne mets pas de...
Ah bah...
Si vous savez, si vous avez une idée.
La première ville.
Après, il s'agit d'une ville, donc c'est plus compliqué.
T'as des pays au moins de référence ?
Non.
Sinon, bon.
Est-ce que quelqu'un a des idées ?
Ouais, propose.
Ok. Alors, A, Saint-Dominique, B, Caracas, C, Buenos Aires ou D, La Rochelle ?
Saint-Dominique, moi je dirais.
C'était quoi le deuxième ? J'ai perdu.
Ah mince, c'est Saint-Domingue. Je...
Ah. Merci Antonin.
Je sais même pas c'est où.
Il y avait une question.
Oui, j'ai juste demandé c'était quoi le deuxième que t'as dit ?
Caracas.
Alors, est-ce qu'on fait un sondage ? Vous pensez quoi ?
Peu.
Moi, j'aurais tendance à dire peut-être Buenos Aires.
Non, je pense pas.
Non,
je
ça, c'est pas,
pense
pas.
Tu penses pas ?
Pour moi, c'est pas...
Ouais, non.
Il s'agit de Saint-Domingue.
Ah, c'est ce que j'avais dit.
Okay.
Et je vous conseille de vous préparer pour la prochaine fois, car je vais vous demander dans quel pays c'est.
Oula.
Ouais, mais c'est un peu une excuse, parce qu'en fait, je le sais pas.
Ah, c'est pour ça.
Allez, question suivante, on parle de date maintenant. En quelle année le premier vol humain dans l'espace a-t-il été réalisé par Yuri Gagarin ? Je vais vous donner des dates.
Ouais,
on les
va
bien.
Ouais.
À 1957, 1961, 1965, 1972.
61
72.
65. Il y en a forcément une bonne dans le lot.
Non, je sais pas. Bah non, il y en a 4.
Et tu penses quoi, toi ?
Vas-y, mets la dernière que personne n'a dit.
C'était pas censé être ça le jeu.
En fait, ce qui me fait rire, c'est que ça fait deux fois que Margot dit un truc au hasard. Enfin, soi-disant.
J'ai pas dit au hasard,
mais c'est ça. 1961.
Ouais, 1961.
Ah oui, tu le savais.
Je suis pas sûr.
Non, je savais qu'il y avait un 1 dedans. Je savais plus il était où.
Quoi ? Mais où est-ce que t'as entendu ça ? C'est pas possible.
Non, mais je m'y connais un peu en astrologie.
Bah, regarde, au final, elle a eu bon. Donc, c'est que.
Je vous propose un truc. On va la mettre tout seul dans une émission où je lui pose des questions, mais dans ce cas-là, ce sera plus dur, mais pas pour vous.
Parce que je suis sûr qu'elle aurait, elle aurait beaucoup de bonnes réponses. Hein.
C'est dommage pour vous que vous ayez des questions compliquées juste à cause d'elle.
On t'en veut pas, Margot.
J'espère. Suivante.
Quel est le nom de l'étoile la plus proche de la Terre après le Soleil ? Je vais en donner parce que je suis pas sûr qu'on les connaisse vraiment. A, Alpha de Centaure. B, Proxima de Centaure. C, Vega. D, Betelgeuse.
Alors, Alpha de Centaure.
Alpha de Centaure, ouais, c'est assez connu. Hein. Mais est-ce que c'est
Proxima,
est-ce que c'est
deux,
celle-là? Je dirais Alpha de Centaure, du coup.
Donc, t'as dit Alpha.
Je dirais Alpha de Centaure.
Ah, bah j'ai réussi à vous piéger. Proxima de Centaure.
Proxima
de Centaure. Ah ouais, c'est bon,
voilà. Après, c'est pas l'étoile la plus proche.
Bien joué.
La plus proche tout court, hein. C'est après le Soleil. Enfin, faut bien souligner ça parce que il peut y avoir des confusions.
Ça marche.
Quel est le premier être vivant envoyé dans l'espace? Donc, on repart là-dedans. Et était, quel type d'être vivant était envoyé dans l'espace?
C'est orienté à astrologie aujourd'hui. Hein.
Oui, cool. T'as vu, t'as remarqué.
Astronomie plutôt. Excusez-moi.
Attends, tu peux répéter la question,
gros,
s'il te plaît?
Quel genre d'animal, quel être vivant était envoyé dans l'espace pour la première fois?
Un être vivant.
En 1947.
Ça peut être des plantes aussi, du coup?
Non, un animal, oui. Je pense.
Un singe?
Évidemment, des gens en ont entendu parler sûrement.
Un chien.
Ah. Je suis satisfait, tu es encore tombé dans le piège.
Ou peut-être un petit animal plutôt.
En fait, le chien, c'est pas faux, mais c'est le premier mammifère.
Ah.
Parce que là, il s'agit pas d'un mammifère.
Tu joues sur les mots.
Oui. le chien, c'était Leica, voilà, mais c'était 10 ans plus tard. Mmh. Donc okay. Là, en 1947, il s'agissait d'une mouche à fruits.
Oui, voilà, c'est pour ça. C'est plus facile d'envoyer un petit animal que.
Oui, ça, c'est sûr.
Voilà. Ça faisait partie des premiers tests et tout dans l'espace. Vrai ou faux, il est impossible d'éternuer les yeux ouverts.
Je pense que c'est très très difficile, mais
c'est
possible
quand même.
Je pense que c'est vrai. Je pense que c'est faux.
Ouais.
On peut quand
peut
même
éternuer les yeux ouverts.
C'est un réflexe.
Si on réfléchit, je pense qu'on peut y arriver.
C'est ça. En fait, c'est faux, mais c'est difficile,
c'est
mais
très,
pas impossible.
Très difficile.
Ouais, c'est un réflexe.
Voilà. Deuxième question, les requins ont des os. Vrai ou faux?
C'est peut-être plutôt des arêtes, non?
Donc, est-ce vous
que
en
c'est
pensez quoi
considéré comme des os?
Je sais pas.
Non, c'est pas une bonne piste.
Ah, il me pose une colle. Hein. Tu l'as déjà fait celle-là?
Ouais, c'est
pas une colle.
Non, pas encore.
Oui, si je pose la question, c'est qu'effectivement, c'est pas forcément des os.
C'est quoi, du coup?
Donc, leur squelette est en fait du cartilage.
Ok.
Ça vous dit quelque chose?
C'est juste du cartilage.
Peut-être dans les nageoires ou...
En fait, c'est leurs os, on ne considère pas ça comme des os, mais comme des cartilages.
Ok.
Ah,
ok, ça marche.
La tour Eiffel devait être détruite après l'exposition universelle de 1889.
Ça c'est vrai.
Vrai?
Oui.
Ok, mais pourquoi?
Parce que c'était un truc éphémère, c'était un projet éphémère.
C'est ça, oui. Elle n'était pas vraiment de base faite pour rester, mais finalement, en fait, ça avait des bienfaits économiques et même en fait utiles pour la, je sais plus, c'est pour les stations de radio, je crois. Bref, elle s'avérait utile et donc on l'a laissée. Et puis là, maintenant, ça devient
touristique.
Là, c'est vrai que c'est un sacré site touristique.
Exactement. Une dernière, les éléphants sont les seuls mammifères qui ne peuvent pas sauter.
Non, il me semble qu'il y en a d'autres.
Alors je savais pas que les éléphants ne pouvaient pas sauter de base.
Je pense que c'est difficile pour eux et leur poids.
Oui.
Peut-être, c'est pas, c'est probable.
Alors du coup, vrai ou faux?
Pour moi, c'est
faux.
Moi,
j'irais faux.
Ouais, faux.
Je pense qu'on, ouais, ils sont tous capables de sauter à part l'éléphant.
Oui, c'est vrai. En fait, oui, les éléphants sont les seuls, donc évidemment en raison de leur masse, hein, vous en serez douté, et de leur structure, donc qui leur en empêche.
Eh ben, merci Antonin, on aura appris plein de choses aujourd'hui, on en ressortira un peu plus intelligent qu'avant. Et restez avec nous, on écoute Last Christmas de Ariana Grande.
Bête sur RCN.
Vous êtes dans l'âge bête sur RCN. Nous allons maintenant écouter Margot qui va nous parler de cuisine.
Oui, alors je vais faire un petit quiz. Donc au début, je vous proposerai pas de réponse, mais c'est un petit QCM en gros. Première question, quel fruit est riche en vitamine C et est souvent associé à la prévention du rhume? Est-ce que vous savez?
Le citron,
peut-être une agrume.
Ouais, alors j'ai des propositions. Il y a pomme, orange, banane et mangue. Si vous suivez votre intuition, c'est bien l'orange. L'orange est l'un des fruits les plus riches en vitamine C. C'est un antioxydant important pour le système immunitaire et il est souvent recommandé pour lutter contre les infections respiratoires, comme le rhume du coup.
Ben on saura.
Voilà. Deuxième question, quel légume est souvent utilisé pour faire des soupes et a une excellente source de vitamine A?
Du poireau.
Poireaux, ouais.
Entre la carotte, le brocoli, le poivron et la courgette. Il n'y a pas le poivron.
Bon, la courgette.
La carotte, je pense.
Non, la courgette.
On a peut-être la courgette, courgette.
Ouais. Plus courant.
Plus de courgettes que de carottes. Pourtant, c'était ce qu'avait raison, c'était la carotte.
Ah oui.
Les carottes sont une excellente source de bêta-carotène. C'est un précurseur de la vitamine A qui joue un rôle crucial dans la santé des yeux et du système immunitaire. Troisième petite question, quel aliment a une excellente source de protéines végétales et est souvent utilisé dans les régimes végétariens? Je pense que vous pouvez trouver sans vous donner les réponses.
Bah, un régime végétarien peut-être.
Ouais, voilà, basez-vous sur le...
Je pense que c'est intéressant.
Bon, je vous propose.
Ouais, essayez. Ouais.
Poulet, tofu, poisson, œuf.
Ouais, ouais, poisson.
Tofu.
Tofu,
ouais. Ouais. C'est ça. Le tofu, du coup, il est fabriqué à partir de soja et c'est une excellente source de protéines végétales. Il est particulièrement populaire dans les régimes végétariens, végétaliens, tout ça, car il peut être utilisé avec plein de plats.
Oui, c'est vrai qu'on le retrouve souvent dans tous les plats végétariens.
Il y a une grande variété à faire avec ça. Quel légume est souvent associé dans les salades et est connu pour son goût amer?
Est-ce que vous avez une idée?
L'endive?
La noix.
Ouais, exactement, wow, c'est ça, j'ai. C'est l'endive. Wow. Ouais, parce que l'endive, elle est connue pour le goût amer comme ça, bah, personnellement j'aime pas trop, mais elle est souvent utilisée dans les salades, elle contient beaucoup de fibres et d'antioxydants aussi, c'est pour ça. Cinquième petite question, quel fruit est une source de potassium et peut être utilisé dans des smoothies ou manger cru? Entre la pomme, la banane, la poire et le melon.
C'est aucun que j'aurais dit.
La banane, peut-être.
Ouais. Je sais pas, vous avez jamais entendu des smoothies et tous les smoothies, tu fais souvent ça à partir de bananes.
Ouais, banane. C'est plus fruits rouges.
On peut utiliser beaucoup de fruits rouges, mais la banane, c'est souvent répondu parce que ça a vraiment beaucoup de fibres. Pardon.
Et surtout, ça rend le smoothie assez épais pour qu'il y ait une consistance.
Bon, ouais, c'est vrai que c'est bon. Question suivante. Quel légume vert est souvent recommandé pour sa teneur en fer et en vitamines? Entre le chou frisé, le brocoli, l'haricot vert et les épinards.
Brocoli.
Épinards, ça a quelques vertus aussi. Hein.
Ouais, mais souvent on dit que c'est pas ça et qu'on... Je sais pas.
Et bah, c'est quand même ça.
Épinards, il y a plein de bonnes choses à l'intérieur.
Ouais, les épinards sont riches en fer, en vitamine A, C et K. Donc beaucoup de vitamines et en acide folique. Donc même si c'est une grande source de fer, il y a plein de biodisponibilité. C'est ça. Je ne sais pas trop qu'est-ce que ça signifie. Mais il faut les consommer avec quelque chose de source de vitamine C. Ça les rend encore meilleurs pour la santé. Quel aliment est riche en vitamine D, essentiel pour l'absorption du calcium? Entre l'œuf, le fromage, le poisson gras et les pommes.
J'hésite. Il y en a plusieurs qui ont l'air bonnes.
Sûrement le poisson, je pense.
Ouais, Antonin a raison. Ouais, c'est ça, c'est le poisson gras. C'est comme le saumon, par exemple. C'est une source importante de vitamine D qui aide le corps à absorber, du coup, le calcium et à maintenir les os, du coup, solides. C'est ce que le calcium fait principalement. C'est pour ça que quand on est petit, la croissance et tout, on nous dit de manger du fromage et des yaourts. Question 8. Quel légume est un ingrédient clé dans la cuisine méditerranéenne et a une forme allongée et une couleur violette?
L'aubergine.
Ouais, exactement. L'aubergine, elle est souvent utilisée dans la cuisine méditerranéenne. C'est un basique du plat méditerranéen. Et il peut être cuisiné dans plein de plats, ratatouille, moussaka. Et elle contient des bonnes fibres et des bons antioxydants. Et c'était la dernière question.
Eh ben merci Margot, tu nous as donné faim. Merci à tous pour vos chroniques. On se retrouve la semaine prochaine. Ça sera moi qui animera. Et ça sera une émission spéciale Noël. Merci à tous pour vos chroniques. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Salut.